Natalia Savishna. Au milieu du siècle passé, dans les cours du village Khabarovka, couraient, pieds nus et couvertes de haillons, mais grasses, joyeuses et bien portantes, Natashka. À la prière de son père, le clarinettiste Sawa, mon grand-père la prit à son service et elle fit partie de la domesticité de ma grand-mère. La femme de chambre d'Atashka se distingua dans ses fonctions, car elle était d'un caractère avenant et montrait beaucoup de zèle. Quand ma mère naquit, on eut besoin d'une bonne d'enfant. Ce fut Natashka qu'on choisit. Dans ce nouvel emploi, elle mérita les louanges et les cadeaux par son activité, sa fidélité et son attachement à sa jeune maîtresse. Mais la tête poudrée et les souliers à boucles du jeune domestique Foka, que son service mettait en rapport fréquent avec Natalia, firent la conquête du cœur rude mais aimant de la jeune camériste. Elle se décida un jour à aller trouver mon grand-père et lui demanda d'épouser Foka. Mon grand-père considéra ce désir comme une ingratitude. Aussi se fâcha-t-il, et, pour punir la pauvre Natalia, il l'envoya dans un autre village paître le bétail. Mais comme personne ne pouvait la remplacer, elle fut réinstallée 6 mois après dans son ancien emploi. Revenue de son exil, quand elle parut devant mon grand-père, elle tomba à genoux, le supplia de lui rendre ses bonnes grâces et jura de ne plus penser à cette sottise qu'elle avait voulu commettre. Elle tint en effet parole. Depuis, Natashka est devenue Natalia Savishna et porte des bonnets. Et toutes les provisions d'amour qu'elle avait dû garder en elle, elle les reporta sur sa barichnia, sa jeune maîtresse. Quand une gouvernante la remplaça auprès de ma mère, Natalia reçut la clé du buffet, et les provisions et le linge lui furent confiés. Elle remplit ses fonctions avec la même exactitude et la même gaieté de cœur. Le bien de ses maîtres absorba toute sa vie. Elle se plaignait toujours de ce qu'on dépensait trop, criait contre le gaspillage et tâchait de réagir de toutes ses forces. Quand maman se maria, désireuse de montrer sa gratitude à Natalia Savishna pour les services et son attachement de 20 années, elle l'appela chez elle et, après l'avoir remerciée en termes affectueux, lui remit un papier timbré où était écrit l'acte de libération de Natalia Savishna. Elle lui annonça qu'elle était libre de continuer de servir dans la maison ou de quitter le service. Elle recevrait quand même une pension annuelle de 300 roubles. Natalia Savishna écouta sa maîtresse en silence. Puis elle prit l'acte d'émancipation, le considéra avec colère, murmura quelques paroles et sortit précipitamment en refermant la porte avec violence. Ne comprenant pas la cause de cette étrange attitude, ma mère se rendit à la chambre de Natalia Savishna. Celle-ci était assise sur sa malle, les yeux pleins de larmes, roulant dans ses doigts le coin de son mouchoir, et regardait fixement les morceaux de papier timbré éparpillés autour d'elle. « Mais qu'avez-vous, ma chère Natalia Savishna ?» demanda ma mère en lui prenant la main. « Rien, ma petite mère, » répondit-elle. « Sans doute je vous dégoûte puisque vous me chassez de votre maison. Eh bien, je m'en irai. » Elle dégagea sa main et, refoulant ses larmes, voulut sortir de sa chambre. Ma mère la retint, la prit dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. Du plus loin qu'ils me souviennent, je vois Natalia Savishna et je me rappelle son amour. Ses caresses. Mais ce n'est qu'à présent que je sais les apprécier. Alors que je ne pouvais m'imaginer quelle rare et précieuse créature était cette bonne vieille. Non seulement elle ne parlait jamais d'elle-même, mais encore elle ne pensait jamais à elle. Toute sa vie n'était qu'abnégation et amour pour les autres. Je m'étais si bien accoutumée à son affection désintéressée et tendre que je n'imaginais pas qu'il en pût être autrement. Et je ne lui en étais nullement reconnaissant. Même, jamais je ne m'étais demandé si elle était contente de se dévouer ainsi. Il m'arrivait souvent, prenant prétexte d'avoir besoin de quelque chose, d'accourir dans sa chambre après ma leçon, de m'asseoir, et de rêver tout haut, nullement gênée par sa présence. Elle était toujours occupée à quelque travail. Ou bien elle tricotait des bas, ou bien elle fouillait dans les malles dont était remplie sa chambre, ou bien elle marquait le linge, écoutant les sottises que je débitais tout haut, telles qu'elles me passaient par la tête. Quand je serai général, j'épouserai une très belle femme, je m'achèterai un cheval roux, je bâtirai une maison de verre et je ferai venir de Saxe les parents de Karl Ivanovitch, etc., etc. Elle répondait toujours « Oui, mon petit père, oui ». Ordinairement, quand je me levais pour sortir, elle ouvrait sa malle bleu ciel sur l'intérieur du couvercle de laquelle était collé, je m'en souviens encore à présent, le portrait d'un hussard, l'étiquette coloriée d'un pot de pommade et un dessin de Volodia. Elle retirait de cette malle une pastille odorante, l'allumait et me disait en l'agitant « Cela, mon petit père, c'est une pastille odorante du temps de Tchakov, du temps de Catherine, à l'époque où feu votre grand-père, qu'il soit au ciel, allait combattre les Turcs. C'est lui qui a rapporté ces pastilles. « Voici la dernière qui me reste », ajoutait-elle avec un soupir. Il y avait de tout dans les malles de Natalia Savichna. Quand on avait besoin de quelque chose, on disait ordinairement « Il faut demander tel objet à Natalia Savichna ». Et, en effet, après avoir fouillé quelque temps chez elle, elle trouvait l'objet demandé et disait ensuite « C'est heureux que j'ai caché cela ». Une fois, je me fâchais contre elle. Pendant le dîner, en me versant du kvass, j'avais laissé tomber la carafe qui s'était répandue sur la nappe. « Appelez donc Natalia Savichna pour qu'elle contemple le haut fait de son préféré, » dit maman. Natalia Savichna entra et, apercevant le dégât, hocha la tête. Puis maman lui dit quelques mots à l'oreille. Et Natalia sortit en me menaçant du doigt. Après le dîner, me trouvant bien disposée, je me dirigeai en sautillant vers le salon. Tout à coup, Natalia Savichna surgit de derrière une porte. Elle tenait la nappe dans la main. Elle me saisit et, malgré mes efforts désespérés, me débarbouilla le visage avec le coin de nappe mouillée en répétant « Ne salis plus la nappe, ne salis plus la nappe !» Je me sentis si grièvement offensée que je hurlai de colère. « Comment ?» me disais-je en arpentant le salon, tout suffoqué par les larmes. Natalia Savichna, Natalia tout simplement, me tutoie et me frappe avec une nappe humide, comme un fils de domestique. Non, mais c'est horrible! Quand Natalia Savichna s'aperçut de mes pleurs, elle partit en courant, et moi, en continuant rageusement ma promenade, je ruminais ma vengeance que je devais tirer contre cette insolente Natashka pour l'offense qu'elle venait de me faire. Quelques instants après, Natalia rentra, s'approcha timidement et se mit à me consoler. « C'est ce dont, mon petit père, ne pleurez pas. Pardonnez-moi ma sottise, j'ai eu tort. Vous me pardonnerez, ma chère Colombe? Voici pour vous, prenez donc. » Elle avait tiré de dessous son châle un cornet de papier rouge plein de caramel et de figues et me le tendait d'une main tremblante. Je n'avais pas le courage de regarder la bonne vieille. En me détournant, j'acceptai le cadeau. Mes larmes coulaient encore, non plus de colère, mais d'amour et de honte.